Voilà, mais écoutez, alors vendredi, j'ai eu le privilège d'aborder un sujet que j'ai intitulé « Les sept paroles de Jésus sur la croix ». Aujourd'hui, mon sujet est celui-ci, « Les quatre paroles de l'ange à Pâques ». Les quatre paroles de l'ange à Pâques. Alors, c'est vrai que j'aimerais ce matin examiner pendant quelques instants un moment très particulier dans la vie, fascinant dans la Bible. L'instant où les toutes premières personnes ont été confrontées par la résurrection de Jésus. Et c'est un moment tellement inoubliable qu'il a été vraiment figé dans l'histoire. Et donc voilà ce qu'on aimerait voir. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque quelque chose d'important arrive dans la vie, la scène est gravée presque pour toujours dans notre esprit. Par exemple, la naissance d'un bébé. La mort d'un parent ou d'un ami proche. Peut-être le début d'une guerre. Peut-être l'élection d'un président. Peut-être le renversement d'un dictateur. Parfois, les événements sont tellement marquants que même les paroles prononcées à cet instant, on s'en rappelle. Alors, je vais vous dire une phrase, d'accord ? Et vous allez me dire si vous vous rappelez de l'événement. Voici la phrase. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond géant pour l'humanité. La lune. Voilà. Voyez-vous qu'il y a certains moments tellement marquants qu'on se rappelle de l'événement par une phrase. Cette phrase, celle que je viens de donner, a été dite par l'astronaute Neil Armstrong au moment où il a mis le pied gauche sur la surface de la Lune, le 21 juillet 1969, à 2h56 précises. La Lune. Alors les paroles que nous allons examiner ce matin rentrent dans la même catégorie de paroles mémorables dans le monde. Car elles sont les premières paroles exprimé après la résurrection de Jésus. C'est pas rien. Les femmes à qui ont été dites ces paroles n'ont jamais de toute leur vie oublié ce moment précis. Et c'est Matthieu, l'évangile de Matthieu, qui nous relate ces paroles. Je vous donne le contexte. Alors, ces femmes, il faut savoir, ne s'attendaient pas à la résurrection. Elles étaient venues au jardin du tombeau pour oindre le corps de Jésus qui avait été enterré le vendredi d'avant, après son horrible crucifixion. Comme je l'ai déjà dit, sa mort a eu lieu vendredi, juste avant le sabbat. Or, il était interdit dans le judaïsme de toucher un corps mort pendant le sabbat, et donc il a été enterré de manière précipitée. Et les préparatifs habituels d'embaumage ont été vite. Ces femmes n'ont pas pu y être à ce moment-là. Deuxième obstacle qu'elles avaient, c'est la pierre. Je pense qu'en arrivant, elles étaient préoccupées, parce que la Bible nous le dit, par rapport à cette grosse pierre. Parce que vous savez que Jésus était entouré dans un sépulcre, et comme on le faisait à l'époque, une immense pierre, et nous avons les calculs, de 2 tonnes, avait été roulée sur la bouche, ou sur la bouche de ce sépulcre. Alors elle venait, elle se demandait, mais qui va nous rouler la pierre ? Je ne sais pas, 2 tonnes, c'est quand même pas rien. Il faut la bouger, la pierre. Mais il y avait un autre problème. Il y avait une garde romaine, en plus. La garde romaine avait été mise devant le tombeau. Il y avait 16 soldats romains, avec un sceau, entre la pierre et le tombeau, 16 soldats romains armés jusqu'aux dents, mis là pour garder la tombe, parce que Jésus avait prédit qu'il allait ressusciter, ils se sont dit, attention, quelqu'un va peut-être venir voler le corps, et ensuite dire qu'il a ressuscité. Donc ils ont mis cette garde romaine pour empêcher cela. Donc, le fameux jour arrive, Et la Bible nous dit, elle se rendit au sépulcre ce matin, comme le soleil venait de se lever. Mais ce n'était pas fini. Elles allaient être confrontées par plusieurs autres choses encore. Verset 2 dit, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. » Alors, à quel moment exactement est-ce qu'elles ont ressenti, elles, ce tremblement de terre? Moi, j'ai l'impression, le texte ne le dit pas exactement, mais en allant, il est dit, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. » Donc, est-ce qu'elles l'ont senti à ce moment-là ou pas? On ne sait pas. Bref, il y a eu un tremblement de terre. Et regardez, chapitre 2, le verset 2 nous dit en plus, « C'est car un ange du Seigneur descendit du ciel et il vint rouler la pierre et il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. » Alors, je ne sais pas si vous avez été elle. Vous arrivez à ce tombeau et là, vous voyez un ange. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des anges. Je pense que elles ont dû avoir un petit peu peur. C'est intéressant vis-à-vis de cette garde romaine, au fait. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, ensuite il y a l'ange qui apparaît, c'est l'ange qui bouge la pierre, c'est ce que le texte nous dit. Verset 4, « La garde tremblait de peur et devinrent comme morts. » Seize quoi ? C'est quoi les soldats les plus... Béret vert. Pas mal ? Gladiateurs. Presque, d'accord. Hein. 16 soldats romains tremblent de peur, nous dit la Bible, et ils s'évanouissent tous. Oh, c'est ce que la Bible dit. Bon, je pense que c'était un miracle. Hein. Dieu les endort. Et maintenant, l'ange parle à ces femmes. Mais l'ange prit la parole, Matthieu 28, 5, et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. » Et je pense que les femmes n'ont jamais oublié les prochaines paroles de l'ange, qui dit ceci. Venez, venez, voyez le lieu où il a été couché. Allez, allez, promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Incroyable. Ces femmes viennent, ne s'attendent pas du tout à ce qu'elles sont en train de voir. Et l'ange leur parle, et le message de l'ange contient quatre merveilleux et puissants impératifs. Quatre ordres qui nous permettent de comprendre l'urgence de ce qui s'est passé ce matin. Venez, voyez, allez. Et quatrièmement, parlez. Regardons ces quatre ordres, un à la fois, d'accord ? Parce que je pense que ce sont les mêmes ordres qui nous sont adressés aujourd'hui. Numéro un, venez. Venez. Écoutez, c'est une invitation merveilleuse, très importante. Je me suis posé la question, alors voilà, qu'est-ce qui aurait empêché ces femmes à rentrer à l'intérieur du tombeau et voir, et y aller, et rentrer? Bah, comme je viens de dire, il y a déjà eu le tremblement de terre, peut-être qu'elles se sont dites, ouh là là, attention, si on rentre là-dedans, il y a encore un tremblement de terre, peut-être que tout va s'effondrer, on va mourir. Donc peut-être, elles se sont dit, peut-être, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Elle aurait pu, hein, c'est de l'hypothèse, là. Bon, écoutez, peut-être que l'ange était aussi un obstacle. L'ange était peut-être un obstacle. Elle n'était pas habituée à voir des anges. Et pourtant, devant elle, il y avait un ange assis sur une pierre dont l'aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Je ne sais pas franchement, comment est-ce que vous auriez réagi? Je ne sais pas, on vit dans un monde tellement matériel, cartésien, humaniste, que le surnaturel nous paraît presque comme étant irréel, une farce. Et pourtant, saviez-vous qu'en France, il y a plus de guérisseurs qu'il y a de médecins? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela prouve que les gens se posent quand même des questions par rapport à l'éternité et par rapport au spirituel. Écoutez, les gens sont très spirituels. L'occultisme marche très très bien aujourd'hui. Regardez le journal, regardez toutes les pubs qu'il y a pour un gourou ou un autre. Et là, il y avait un ange ce matin-là. La Bible nous dit que les anges existent bien. Ce sont les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1,14. Des anges sont au service de Dieu pour nous aider, nous qui connaissons Christ. C'est ce que la Bible dit. Le psaume 103,20 nous dit que les anges sont puissants en force, qu'ils exécutent les ordres de Dieu. Alors, il y en a combien? Ouh là là, alors là, ne sortez même pas vous de calculatrice, d'accord? Apocalypse 5,11 nous donne le nombre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ça fait un paquet d'anges. Il y a beaucoup d'anges, mes amis. Et là, ce jour-là, il y en avait un assis sur la pierre qui venait de rouler cette pierre. Alors attention, certains disent, ouais, est-ce qu'il l'a roulé pour que Jésus sorte? Bien sûr que non. Dans Jean 20, il avait déjà passé, n'est-ce pas, par les murs. Non, c'était pour que les femmes puissent rentrer et voir. Donc l'ange aurait pu être un obstacle. C'est-à-dire, ouh là là, on n'est pas habitué à voir des anges. Troisièmement, le tombeau aurait pu être un obstacle aussi. Je ne sais pas, comment vous auriez réagi un ange? Je vous dis, écoutez, rentrez dans un tombeau dans lequel il y a eu un corps qui décomposait depuis 3 jours. Dans Jean 11, lorsque Lazare est ressuscité, Marie et Marthe disent, non, surtout pas, n'ouvrez pas la tombe parce que déjà il sent. Donc la décomposition au Moyen-Orient est très vite. Alors maintenant, on vous invite, écoutez, est-ce que tu veux rentrer et les voir à l'intérieur du tombeau? Pas trop, non merci, c'est gentil, d'accord. Je pense qu'il y a un autre obstacle, ça aurait été Rome, on l'a déjà vu. Lorsque la tombe a été scellée, les gardes romains ont été mis autour de cette tombe, il y avait ce sceau. Un sceau, c'était une sorte de corde avec, en argile, 2 sceaux romains. Et ce sceau était là, pas parce qu'il était imbrisable, mais ce sceau, s'il était brisé, c'était le FBI et le CIA et tous les services secrets romains qui étaient mis en œuvre pour retrouver celui qui avait fait cela. Et au fait, les 16 soldats, finis ce jour-là. Avec leur vie, ils devaient protéger ce sceau. Leur vie. Ils arrivent, la pierre est roulée, le sceau est brisé, 16 soldats qui dorment. Ce n'est pas exactement ce qu'ils devaient faire. Peut-être qu'il y avait aussi le problème de leurs propres sentiments. Peut-être que se sentaient indignes de rentrer dans ce tombeau. Elles savaient que Jésus n'était pas qu'un homme. Marie Magdala, une des femmes qui était là, nous dit, Luc 8 avait eu 7 démons chassés de son corps par Jésus. Elle savait que Jésus était le Fils de Dieu. Elle savait qu'il était le Messie promis. Elle savait aussi qu'elle était pécheresse. Et là, elle voit un ange qui rayonne, un tombeau vide, la résurrection de Jésus annoncée. Un moment solennel, éclatant des émotions à droite et à gauche, dans la confusion, peut-être se sentait-elle indigne. Mais peut-être que ces femmes, en entendant l'ange dire « venez », pensaient à cette autre phrase que Jésus avait dite, plus tôt, où il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que si vous avez été une de ces femmes, est-ce que vous auriez obéi à l'invitation ? Venez. Deux. Voyez. Voyez le lieu où il était couché. Alors ça, c'est une invitation très intéressante. Il dit, écoutez, mesdames, rentrez dans le tombeau et regardez l'endroit précis où il a été couché. Mais pourquoi ? Il y avait quoi à voir ? L'ange venait de leur dire que Jésus était ressuscité, mais alors pourquoi était-il important de voir l'endroit ? Eh bien, je crois que le lieu révélait plusieurs choses. Premièrement, ce lieu révélait le sacrifice du Fils de Dieu. Alors, bien sûr, ça, on l'a vu vendredi en détail. Mais la Bible nous explique clairement que la mort de Jésus fut étonnante. Pas parce qu'il est mort crucifié. Beaucoup de gens mouraient crucifiés à l'époque. Les Romains tuaient énormément de gens crucifiés par la crucifixion. Non, l'étonnement ici, c'est que Jésus a été crucifié. Lui, le Messie, le Sauveur, lui, Jéhovah incarné. Lui, né d'une vierge en vertu du Saint-Esprit, lui qui n'avait aucun péché. Lui qui était pur, innocent, nous dit la Bible. Lui qui avait vécu dans la gloire céleste avec le Père pour toute l'éternité et qui va vivre pour toute l'éternité à la gloire, avec la gloire de Dieu. Lui qui est venu sur terre pendant 33 ans pour mourir. Lui, et pas seulement mort, crucifié. Lui qui n'a jamais commis de péché, a pris sur son compte mon péché et a subi mon châtiment pour moi et m'a donné à la place de mon péché sa justice. Il a dit, John, je te déclare innocent. Oui, le tombeau, c'est un rappel que le Fils de Dieu est mort pour nous. Deuxième chose que le lieu révèle, c'est l'horreur de mon propre péché. Bien sûr, le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez, qui suis-je aux yeux de Dieu ? Tous ont péché, la Bible dit. Tous. Et les yeux de Dieu, nous dit Habacuc 2, sont trop pur pour voir le mal. Dieu ne peut jamais laisser un pécheur dans sa présence à moins que le péché soit effacé. Est-ce que je peux le faire par mes propres œuvres ? Impossible. Non. Il me faut un sauveur. Il me faut quelqu'un qui vienne l'enlever. Eh bien, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et donc, ce tombeau représente l'horreur du péché. C'est la mort qui a provoqué le péché. Ce lieu révèle aussi notre propre destin. Alors, à moins que la Bible nous dise que Jésus va revenir un jour, il va venir nous chercher. Alors, si vous connaissez le Seigneur, eh bien, lorsqu'il vient, on sera enlevé, la Bible dit. On va être pris directement. Alors, s'il vient avant ma mort, je ne vais pas mourir. Ça va être super. Okay ? Mais si je meurs avant qu'il revienne, eh bien, c'est un rappel que mon destin est la mort. Je vous pose une question personnelle. Il n'y a que vous qui pouvez la répondre. La voici. Es-tu prêt à mourir ? C'est une question légitime. Est-ce que tu es prêt ? Es-tu prêt pour la mort ? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts pour la mort. L'infirmière qui se trouvait au chevet de Voltaire le jour où il est décédé a dit ceci. « Pour tout l'or du monde, je ne voudrais assister encore une fois à l'agonie d'un incroyant. » Elle a dit « Jamais je veux revoir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ personnellement mourir. » C'est affreux. C'est une agonie. Pourquoi ? Parce que ceux qui meurent sans Christ n'ont aucune espérance. Napoléon, d'après le médecin qui se trouvait près de lui, a eu une fin effroyable. Le médecin écrivit ceci, « L'empereur meurt solitaire et abandonné. » Charles IX, roi de France, exprima ces paroles juste avant de mourir. En roi, « Je suis perdu, je n'en doute pas. » Churchill a dit, avant de mourir, « Quel fou ai-je été ?» Alors, tenez-vous bien. Bouddha, avant de mourir, a dit ceci. « Je n'y suis pas arrivé. » Es-tu prêt pour la mort ? Ce tombeau nous fait poser cette question, n'est-ce pas ? Quatrième chose que ce Dieu nous révèle, ça c'est Pâques, c'est que Jésus n'y est plus. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qu'elles ont vu ces dames ? Qu'est-ce qu'elles ont vu ce jour-là, lorsqu'elles sont rentrées dans le tombeau ? Mais écoutez, selon Jean 20, 5 à 8, elles ont vu, je cite, « les bandes qui étaient à terre » et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus plié dans un lieu à part. Alors, j'explique comment le corps était préparé. D'accord ? J'aimerais vous lire parce que c'est très important. Dans Jean 19, 39, il est dit ceci. Jean 19, 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloé. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris un mélange, pour embaumer le corps de Jésus rapidement là, de 100 livres, environ 45 kilos, d'épices de myrrhe et d'aloé. Et c'est les amis avec Nicodème qui ont fait ça, et la Bible nous dit qu'ils ont enveloppé le corps de Jésus avec ses bandes. Alors, j'étais à Wikipédia pour m'informer sur ce mélange. Alors, c'est intéressant que la myrrhe est une gomme résine, nous dit Wikipédia, aromatique produite par l'arbre à myrrhe, et que l'aloé est une plante qui symbolise le chagrin. Donc, ils ont pris ces deux aromates, ils les ont mélangés. Et ce mélange a créé 45 kilos de pâte. Pâte gommeuse. Alors, pour préparer le corps, ils prenaient des bandes de toile de lin de 30 cm de large environ. Et ils commençaient à entourer le corps par le pied. Donc, ils mettaient de la pâte, ils mettaient le lin, ils remettaient de la pâte entre les tours et ils faisaient ça toutes les jambes, et ensuite le corps, les doigts, les bras, jusqu'à là. Pour la tête, ils utilisaient une pièce différente, sans pâte gommeuse. Ensuite, ils mettaient le corps, 3 jours dans la sécheresse du Moyen-Orient. Très chaud. Qu'est-ce qu'elles ont vu ? Lorsqu'elles sont rentrées dans le tombeau et voir, pour voir. Eh bien, je pense qu'elles ont vu exactement ce que Pierre et Jean ont vu quelques minutes plus tard. Lorsqu'elles sont allées dire à Pierre et Jean, « Pierre et Jean, venez voir, c'est incroyable ce qu'on a vu !» Alors la Bible nous dit ce que Pierre et Jean, ils ont vu. Alors je vais vous lire, Jean 20, à partir du verset 3. Écoutez. « Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient les deux ensemble. » Est-ce que vous avez déjà imaginé Pierre et Jean en train de courir à fond ? Voilà ce qu'ils font. Ils courent, c'est un sprint pour aller au sépulcre. Mais l'autre disciple, donc Jean, courut plus vite que Pierre. Tiens, c'est marrant, hein ? Il y en avait un qui était plus sportif que l'autre, Jean. Et il arrivait le premier au sépulcre. Donc Jean bat Pierre. D'accord ? Il arrive au sépulcre, verset 5, Jean 20 nous dit, il s'est baissé, parce que le trou n'était pas trop haut, il ne voulait pas se cogner la tête, bien sûr, et il vit les bandes qui étaient à terre. Il voit les bandes qui sont à terre. Alors, c'était tellement époustouflant. Il est dit que cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre et il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Maintenant, écoutez, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit. Et il crut. Tiens, tiens, tiens. Lorsque Jean a vu les bandes, quelque chose de tellement extraordinaire était arrivé qu'à cet instant, il a cru. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, moi, je pense que la thèse de Josh McDowell, qui est un écrivain, est convaincante. Il pose cette question, pourquoi Jean a-t-il cru après avoir vu les bandes ? Voici ce qu'il dit. Parce qu'elles étaient là en forme de coquille, puisque la pâte aromatique avait séché depuis les 3 jours et que le corps de Jésus, en ressuscitant, avait passé au travers. Et donc il voit là une coquille, la coquille dans la forme d'un homme, vide. Comme celle de cocon. Et voilà ce que je pense. Moi, je pense que l'ange dit aux femmes, venez et voyez. Regardez. Parce qu'alors là, mes amis, il y a quelque chose qui va vous convaincre. Oui, ce lieu révélait que clairement Jésus était ressuscité. Certains disent, ouais, mais non, le corps, il a été volé. Certains disent, c'est les ennemis de Jésus qui ont volé le corps. Écoutez, ceci est impossible. Parce que si les ennemis de Jésus avaient volé le corps, bien quand les disciples ont commencé à affirmer la résurrection, tout ce qu'il fallait faire, c'est d'apporter le corps et dire, mais non, vous vous trompez les gars. Pourquoi ils n'ont jamais amené le corps ? C'est ridicule. Oui, mais alors c'est les disciples qui l'ont volé. Mais ceci est impossible également. Car si les disciples avaient volé le corps, ils n'auraient jamais été d'accord de mourir, comme la plupart l'ont fait, pour ce qu'ils savaient être un mensonge. C'est ridicule. Non, mes amis, non. Le tombeau était vide. Cette coquille était la preuve que Jésus était bien. Et bel et bien ressuscité. Et mes amis, ce lieu révèle que nous aussi un jour serons ressuscités. Si Jésus est vraiment ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Et si Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », Jean 11, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Écoutez mes amis, si Jésus-Christ est vraiment ressuscité, ça veut dire qu'il peut vraiment nous donner la vie. Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'avais 19 ans, je suis parti en Inde, hein, vous le savez, la plupart de vous. J'étais hippie. Je fumais des choses que je ne devais pas fumer. C'était à l'époque de ma vie. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et dans mon voyage, je suis parti et je suis allé en Israël. J'ai acheté un guide. Et ce guide m'a dit, il faut aller voir le tombeau de Jésus. J'ai dit, tiens, c'est intéressant. Allez, j'y vais. Alors, je vais au tombeau de Jésus. On peut aller aujourd'hui. En fait, on a un voyage en Israël en novembre. Si vous voulez venir voir, vous pouvez venir voir le tombeau. On peut aller dedans. Moi, je ne savais pas. Alors, j'étais là, j'arrive, 8h du matin, je suis assez matinal. Je rentre dans le jardin du tombeau et paf, le tombeau de Jésus devant moi. Je me dis, mais c'est incroyable, tombeau de Jésus. Alors, je vais à l'intérieur du tombeau. Et là, mes amis, j'ai eu des frissons de là à là. Pourquoi, j'en sais rien. Mais là, ça m'a pris les tripes. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est le tombeau de Jésus. Je sors du tombeau, je vais à Golgotha, là où il a été crucifié. J'étais debout à Golgotha. Et là, j'étais envahi par une émotion, et là, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. 2 mois plus tard, j'ai rencontré un missionnaire en Inde qui m'a parlé du salut en Jésus-Christ. Il m'a dit que Jésus était ressuscité. Et là, j'ai fait le lien. Je me suis dit, mais c'est incroyable, j'étais dans son tombeau vide. Il m'a dit, Jésus-Christ ressuscité peut te pardonner tes péchés maintenant. Est-ce que tu veux? Et j'ai dit oui. Et là, le 2 novembre 1976, dans la rue à New Delhi, j'ai dit, Jésus-Christ, si c'est vrai, fais-le maintenant. Et ma vie a basculé. Au point où aujourd'hui, je suis pasteur. Et il faut le faire, hein. Ça c'est incroyable. Donc voilà, voyez. Venez, voyez, et maintenant ça va très vite. 3. Allez. Allez. Je ne sais pas, moi je peux imaginer que ces femmes, maintenant, elles sont devant ce qu'elles ont vu là. Elles se sont dit, mais écoute, moi je veux rester, quoi. Moi, c'est trop beau. Pourquoi partir? Et non, moi, c'est mieux qu'un film, quoi. C'est incroyable. Devant l'endroit, je suis là, Jésus est ressuscité, il y a ces bandes, ce cocon, c'est incroyable. Pourquoi je partirais? On peut s'imaginer hein, que peut-être elle aurait voulu rester là, peut-être pas. Bref, l'ange leur dit, allez. Il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à annoncer. Jésus l'a dit ainsi, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons un travail à faire. Mais pas tous sont convaincus, vous savez. Pas toute personne a envie d'aller. Peut-être qu'elles ne sont pas très convaincues de la résurrection. Vous savez, moi je connais des gens. Ce sont des gens chrétiens, je mets entre guillemets, parce qu'ils sont nés dans la chrétienté. Mais ce qui m'étonne, c'est que chez eux, ils ont les crucifixes, les croix, avec Jésus dessus encore. Je me dis, mais c'est quoi la moitié de l'histoire? Pourquoi avoir une croix avec Jésus dessus? Il est mort, oui, on est d'accord, il a été crucifié, mais il est ressuscité des morts. Nous avons un Jésus vainqueur, ressuscité. Ah, ne ratez pas la résurrection, mes amis. La victoire est dans la résurrection. Et nous avons à proclamer cette résurrection autour de nous. Alors l'ange dit, venez. Voyez, allez, quatrièmement, parlez. Parlez. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Je ne sais pas si à Pâques vous avez la tradition chez vous, on va cacher des œufs. Hein? Nous, on le faisait pendant les années. Cacher des œufs. Les grands, les enfants sont grands, c'est pour ça qu'on ne le fait plus, hein, d'accord? Mais on allait cacher les œufs dans la maison, puis ensuite, c'est la tradition, et ensuite, ils allaient chercher les œufs. D'accord? Je pense que certains de vous faites ça aussi. Ça, c'est amusant, ce qui se passait. On leur donnait chacun un petit panier. Alors, nous, on avait bien planqué tous les œufs. Hein. Il y en a, on les trouve encore 6 mois plus tard, des fois, vous savez. Mais on avait des œufs partout dans la maison. Enfin, il y avait quand même un endroit particulier, sinon, c'était trop. Et alors, on leur donnait chacun le panier, et ensuite, on comptait jusqu'à 3. Et ensuite, on donnait le moment où ils pouvaient aller chercher leurs œufs. Alors bien sûr, la grande question, c'est qui allait trouver le premier œuf. Et c'est marrant, aussitôt que le premier enfant avait trouvé l'œuf, il s'exprimait, « Ouais, j'ai trouvé un œuf !» Et tous les autres regardaient pour voir s'il avait vraiment trouvé l'œuf. Et puis quoi, il disait, « Oui, c'est vrai, il a trouvé l'œuf !» Oui, oui, non, et puis l'autre, « Ah oui, oui, c'est vrai, il a trouvé l'œuf !» C'était intéressant que dans cette recherche d'œuf, il n'y avait pas besoin de motiver les enfants, d'exclamer et de dire qu'ils avaient trouvé l'œuf. C'était automatique. Je suis en train de faire le lien avec la résurrection, mes amis. Si tu es convaincu de la résurrection, si tu es sûr que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, ça devrait être un automatisme. Rien ne devrait nous empêcher de le faire. On ne devrait pas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est la parole de la vie. C'est le pardon des péchés qui est proclamé. C'est la résurrection, tu peux vivre même après ta mort, tu peux avoir la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de le lire? Mais on est tous pareils, vous savez, moi aussi des fois, j'ai peur. Moi aussi, des fois, j'ai honte. Que Dieu me pardonne. Ah, quel message, mes amis. Quel message. Quel est le message? Écoutez bien. Romains 10, 9 et 10. J'arrête avec ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu veux connaître le ressuscité? Avec ta bouche, dans ton cœur si tu veux. Exprime-le avec ta bouche peut-être. Jésus, deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Et deuxièmement, oui, je crois que tu es ressuscité des morts. Donc, tu as vraiment le pouvoir de me pardonner mes péchés. Fais-le maintenant. Inclinons-nous. Inclinons-nous. Florent. Ben, nous avons entendu les quatre paroles de l'ange. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu ce matin, pour ce message, pour ce que l'ange a dit à ces femmes, pour cet événement tellement extraordinaire qu'est la résurrection, Seigneur, que nous célébrons aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à venir et à voir, et aide-nous à aller et parler. Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs ici ce matin. Si quelqu'un ne te connaît pas ce matin, c'est l'occasion de dire oui, Jésus-Christ. Rentre dans mon cœur. Seigneur, je te demande pardon pour tout mon péché qui t'a offensé, Seigneur. Je m'en détourne et je te demande de me laver, de me purifier ce matin. Donne-moi une nouvelle vie ressuscitée. Et je t'en remercie. Seigneur, pour nous qui te connaissons, aide-nous à être plus motivés, à oser un peu plus, à proclamer cette bonne nouvelle autour de nous.